Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Cette semaine à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, nous avons Jacky Lacourcière.
Bonjour.
Franck.
Salut.
Robert Rivard.
Bonjour.
Et moi-même, Nicolas Lehoux. Le thème de cette semaine sera « Celui qui veut changer sa vie doit d'abord changer ses pensées ». Tout le monde connaît la citation de Gandhi, hein, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». On parle beaucoup aujourd'hui de faire attention à ce que l'on pense, parce qu'on est le créateur de notre univers. Mm-hmm. C'est dans l'air, mais quand on regarde ça vraiment, on se rend compte que les gens n'y croient pas tant que ça. Ils mm-hmm. croient ça pour les bonnes choses, mais oui. lorsqu'il arrive un malheur, ils vont dire « Ah, c'est la faute de l'autre ».
C'est le hasard, oui. Oui.
Il suffit aussi de voir comment la peur se manifeste un peu partout. Cette espèce de paranoïa, mais que ce soit vis-à-vis des États, vis-à-vis de leur population, que ce soit des populations eux-mêmes contre elles-mêmes, c'est absolument fou. Donc là, on dépasse complètement ce cadre-là de se prendre en main, d'avoir des pensées, d'y faire attention, et puis d'incarner ce changement en question. Et on se rend compte que plus on arrive dans des crises graves, et plus c'est difficile à mettre en pratique, que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement d'ailleurs.
C'est vrai ça, c'est vrai ce que tu dis, parce que quand ça va bien, c'est facile de penser ça, mais quand ça va mal dans notre vie, là, que c'est, on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne, on a tendance à dire, il me semble que si ma vie était plus facile, il me semble que ça m'aiderait à changer mes pensées. Là, je pourrais avoir des pensées beaucoup plus radieuses. Bien oui, ça... Mais l'affaire, c'est ça. C'est parce qu'il y a un dicton qui dit « Souris à la vie et elle te sourira ». Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que on doit d'abord changer nos pensées pour que notre vie s'ajuste. Mais on a de la... C'est comme tu disais tantôt, Nicolas, en fait, on dit ce qu'on est en train de dire, à peu près tout le monde le sait, finalement, on n'invente rien. Mais l'affaire, c'est justement, dans notre quotidien, sommes-nous capables, justement, de le mettre en pratique?
Peut-être qu'est-ce qu'on n'a pas, ou peut-être qu'est-ce qui manque en plus grande quantité, parce que toutes les bonnes intentions sont là, comme on vient de le dire. Mm-hmm. Mais peut-être c'est une méthodologie, peut-être c'est une pratique. Peut-être quelque chose dans la méthode pour y arriver à changer ses pensées, créer des habitudes, etc.
Bien sûr.
Oui, enfin, la méthode n'est pas que ça, parce que la méthode, ça renvoie encore à l'intellect, mm-hmm. au mécanisme du mental. Et mine de rien, quand on n'embarque que là-dedans, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que, moi, ça m'est arrivé d'être exactement dans ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire, putain, mais il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien malgré les pensées positives, malgré ci, malgré ça, il n'y a rien qui concrètement se met en place. Donc, ça ne suffit pas d'avoir des pensées. C'est un tout, en fait, c'est global. J'allais presque dire, c'est holistique. Mmh. Et donc ça doit être dans les pensées, mais ça doit être aussi dans les cellules comme ressenti en tant que tel. Sinon, si c'est juste dans la tête, c'est pas suffisant, quoi.
Parce oui. qu'une méthode, oui. ça reste théorique. Mais là, Tommy, tu as parlé du mot pratique, mm-hmm. Robert, puis c'est vrai que moi, c'est ça que je trouve très important. C'est une pratique. On doit prendre conscience, mais on doit le pratiquer. On doit l'intégrer dans sa vie. Moi, à chaque instant, à chaque jour, je pense à mes pensées, j'essaie d'analyser mes sentiments. Moi, j'écris mon journal à chaque jour, je note mes sentiments, j'essaie de décrire l'énergie qui émane de moi, parce que je sais bien que ça se répand dans le monde. Et plus on a des pouvoirs psychiques forts, plus on est spirituel, plus on a un impact sur le monde.
Mm-hmm. Tu viens de dire quelque chose qui est pertinent avec une lecture que je fais en ce moment. La dimension qu'on croit ou qu'on est sensible à savoir ce qu'on l'on fait, ça a de l'impact à plusieurs niveaux, plusieurs dimensions, multidimensionnelles, oui ou non. La plupart des gens sont aussi sont tout simplement physiques, puis ils voient la vie comme une proposition physique atomique. Vont pas entretenir des pensées où ce que oui, ma pensée a un impact en dehors du système solaire, par exemple, ou quoi que ce soit. Ils vont rester beaucoup plus dans un voisinage de métro boulot dodo. Donc c'est vraiment un point pivotant de cette question-là. Est-ce qu'on a de l'impact en dehors de notre réalité physique immédiate, oui ou non? Et puis, c'est ça la question.
Oui, en fait, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, hein? Justement, c'est ça. Parce qu'on en a déjà parlé, évidemment, c'est un thème là, un petit peu... On peut passer vite sur ça parce qu'on en aurait long à dire, mais quand on sait, par exemple, que la matière n'existe pas, à savoir que c'est de cette façon-là qu'on arrive à constituer notre réalité. Maintenant, comme tu disais tantôt, Franck, il s'agit, comment je peux dire, moi aussi je suis d'accord avec l'idée que c'est pas une certaine méthode, mais il s'agit simplement de faire de notre vie, comme le disait Platon. Oui, ça me rappelle quelque chose. Là, Platon disait, ce qui est important, c'est important de vivre, mais aussi de faire la théorie de sa vie. Ça, je trouve ça bon. Ça veut dire que prendre le temps, justement, de réfléchir à sa vie, d'y penser, et prendre le temps aussi de réfléchir au genre de pensée que l'on a, c'est simplement s'arrêter, finalement, pour penser consciemment à sa vie, et puis dire, ben écoute, je suis vraiment dans la... Ça va pas bien, là, ces temps-ci, là. Il y a rien qui fonctionne. Ça n'a pas de sens. J'arrive pas à m'en sortir. Mais l'affaire, c'est que tant et aussi longtemps que tu vas rebrasser dans ton esprit ce genre d'idée-là, ça va être encore pire et pire et pire. Tu t'en sors pas. C'est comme un cercle vicieux. Et là, à ce moment-là, ton idée, là, de méthode, là, peut-être, moi, il y a peut-être quelque chose que je rajouterais à ça. Ce serait peut-être, à un moment donné, il faut savoir mettre la hache dans ce qui va pas bien, à savoir, tu dis là, tu mets le poing sur la table, c'est assez, j'en ai marre, et puis là, je veux changer ma vie, il y a quelque chose qui va pas, mais là, OK, ça a l'air, on me dit, il faut que d'abord que je change mes pensées, d'accord, je vais essayer ça, changer mes pensées. Et là, moi, ce que je suggérerais peut-être, là, en tout cas, pour moi, ça marche, c'est tu visualises le genre de vie que tu veux, tu visualises ce que tu veux changer, mais c'est important que ce soit bien, bien clair dans ton esprit. Là, tu bénis ça, parce que bénir, c'est mettre de la lumière, c'est harmoniser. Tu oublies ça en faisant confiance, et là, graduellement, tu vas voir, des choses vont se placer.
Et puis, si c'est trop abstrait pour certaines personnes, moi, je dirais tout simplement, regardez autour de vous, regardez votre maison.
Mm-hmm.
Est-ce que dans les coins, il y a des toiles d'araignée? Regardez l'aspect physique de votre vie, les couleurs qui sont là, ça parle. Est-ce que c'est en ordre dans votre tête? Est-ce que c'est en ordre dans votre maison? C'est toujours, les deux sont très liés. Et des moments où j'avais un petit manque d'énergie, une amie m'a fait voir que peut-être qu'il manquait de comment on appelle ça, le
feng shui?
Le feng shui dans mon appart. L'énergie. Alors, on a regardé ça ensemble. Mm-hmm. On a mis dans un coin, le bon coin, on a mis un plat vide qui représentait l'abondance. Ça a amené l'argent dans ma vie. Alors, on a tout placé, on a fait en sorte que l'énergie circulait. Donc, pour moi, changer sa maison, c'est quand même ton intérieur. Puis, en le faisant, le processus, eh bien, tu changes ton intérieur. Si moi, je repeins mon plancher en blanc et tous les plafonds et tout en blanc, toujours, je sais que c'est un symbole de la mise au blanc, la lumière blanche. Il y a toujours un aspect symbolique dans ma vie, dans tout ce que j'entreprends.
Oui, oui.
C'est aussi à chacun de... Tu parlais du feng shui, mais peut-être que pour d'autres, ça va être de façon différente. Ça peut être la pratique d'un sport, ça peut être la pratique d'une activité artistique. Moi, je trouve que le truc qui fonctionne, que j'essaye en tout cas de plus en plus de pratiquer, c'est d'essayer de se connecter à la joie et de se connecter vraiment, comme si tu parlais tout à l'heure, de visualiser.
Oui.
Mais à la limite, la visualisation, je trouve que c'est aussi proche, très proche d'une mécanique mentale. C'est-à-dire que c'est bien, mais il faut vraiment que ce soit associé à des émotions. Si ce n'est pas associé à des émotions, ça reste du pur mental et puis ben, ça reste à cet état-là. Par contre, si c'est connecté ou si c'est vécu comme une émotion, c'est-à-dire une émotion de joie, le fait de se connecter à la joie, ça c'est assez puissant et ça permet de transcender et de faire comme un espèce de saut quantique. C'est-à-dire de passer d'un état où tout va pas bien à un état d'être où c'est comme si tout allait bien, même si des fois ça ne peut. Mais par contre, ça se rapproche
oui,
de ce
oui,
que
oui.
tu as dit.
Oui, oui.
Et moi, enfin, en tout cas pour moi, ça fonctionne. Je ne dis pas que ça fonctionne tout le temps, mais ça fonctionne bien. Et d'associer des choses, par exemple de faire ça, plus de faire ce que tu viens de mentionner, Nicolas, par rapport au feng shui, c'est en trouvant un petit peu les choses auxquelles on est réceptif et puis d'aménager un petit peu sa vie par rapport à ça. Et au final, d'adapter tout ça à soi. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle, ça concerne vraiment chacun, quoi. Mm-hmm. Chacun, chacune. Hein. Mm-hmm,
mm-hmm. Parce que le monde est le miroir de nos pensées.
Oui.
Et puis si on n'en prend pas conscience, on va traiter le monde comme on se traite. Et si on se traite en s'oubliant, on oublie le monde. Et je pense que c'est un gros problème aujourd'hui, cet oubli.
Autrement dit, si on n'aime pas la réflexion qu'on voit dans notre réalité... C'est ça que tu dis. Si on n'aime pas ce qu'on voit dans la réflexion...
Ben, si tu n'aimes pas le monde qui t'entoure... je dis pas que le monde est parfait sur la planète Terre, mais moi, je me sens très heureux. Je trouve la beauté autour de moi. J'aime être ici parce qu'il y a quand même des bons côtés. Mais bon, on va faire une petite pause musicale avec Pépé. Et la chanson s'appelle « Marchand de bonheur ». Puis on reviendra avec le sujet après cette pause. Celui qui veut changer sa vie doit d'abord changer ses pensées.
Je suis un marchand de bonheur. J'ai commencé d'indépendant. J'en ai usé des semelles à courir après les belles ritournelles pour me rendre jusqu'au septième ciel. Hey! Je fais de la musique pleine de couleurs, d'un bord les cégeps pis ailleurs. Les salles, les festivals, les classiques dans un chac. Ma chaise à Dirondac sur le bord du lac. Un feu pile 24 packs de black. Un tour de chaloupe, je t'embarque. Je vais t'improviser un spectacle. J'ai traîné ma guide dans un sac. Mets-toi encore dans le chac. Donne-moi une minute. On est parti. Je mets de la fantaisie dans vos cœurs. Ma guitare est un pinceau. Je change de teinte en tassant le capot. À place de la toile, il y a un morceau.
Nous sommes de retour à propos sur le bonheur. Et le sujet cette semaine est « Celui qui veut changer sa vie doit d'abord changer ses pensées ». Ça dépend beaucoup là, de celui qui pratique au quotidien cette pensée là, qu'on vient d'émettre. Moi-même, quand j'ai terminé l'école, j'étais très insatisfait du monde dans lequel je vivais. J'avais vraiment pas le goût de travailler. J'avais vraiment pas le goût d'embarquer sur le marché du travail. Et j'ai entrepris un processus de me changer en profondeur. Et j'ai étudié comme un fou, compulsivement. Et même vers 27 ans, j'ai commencé à utiliser les drogues psychédéliques. J'ai commencé à me changer là, d'une manière que peu de gens le font aujourd'hui. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait monter dans les métaprogrammes pour changer tous ces programmes, casser ces programmes qui ne sont pas bons et finalement peut-être même toutes les enlever et repartir à zéro s'il le faut. J'étais prêt à tout, moi, pour me changer parce que j'avais compris que on peut pas changer les autres, on peut pas changer le monde si on sait pas changer nous-mêmes.
Oui, c'est ça. Beaucoup de gens qui aimeraient changer le monde et puis pourtant ils tournent en rond dans leur médiocrité, pratiquement on pourrait dire. Alors la seule chose qu'on peut changer finalement c'est soi-même. Et puis pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tantôt, il y a une petite phrase, là, c'est américain, là, c'est anglais, mais je pense que tout le monde connaît ça. Et puis, j'aime bien ça, c'est « fake it until you make it ». Faites semblant, puis ça va finir par arriver. Mm-hmm. Autrement dit, quand tu veux changer quelque chose de ta vie, mm-hmm. On reprend un petit peu ce qu'on disait tantôt, mais il s'agit de faire semblant. Mm-hmm. C'est pas de l'hypocrisie face à soi-même, là, c'est simplement, finalement, de se dire, oui, par exemple, j'ai déjà réussi, c'est déjà fait dans ma vie, les choses que je veux sont déjà arrivées. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça change les vibrations. C'est comme quand, par exemple, une personne va rencontrer, une fille, par exemple, elle va rencontrer un gars, puis il va lui donner beaucoup de misère, là. Un gars dur et puis violent, puis elle voudrait bien changer sa situation, même changer le gars, là, mais bon, pour ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est parce qu'au moment où elle l'a rencontré, elle portait certaines vibrations en elle, ouais. peut-être de victime, ouais. et là, elle ne veut plus vivre ça, mais elle est encore prise avec ça. Alors, comment faire pour se débarrasser soit du gars ou soit de cette vie-là qui est difficile? Bien, on va dire, c'est certain qu'il y a des choses à faire là, dans la vie, dans la réalité. Là. Il y a des moyens, l'ego, ouais, tout ça, ouais. mais il y a aussi, surtout avant tout, de justement, je trouve que ça s'applique au terme d'aujourd'hui, de changer ses pensées de victime en pensée justement de femme autonome.
OK.
Mm-hmm. Ça, c'est clair, oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être franchement pas enseigné, mais en tout cas pratiqué
oui.
dans beaucoup de centres, par exemple pour femmes battues, pas seulement pour femmes battues, parce qu'il y a aussi... c'est moins connu, mais des hommes battus, en tout cas des victimes.
Mais moi, je dirais même aux enfants d'école, même aux enfants à l'école, là, tu sais, plutôt que d'enseigner là, des matières, bon, ça, mais d'enseigner ce genre de choses-là primordiales là, aux enfants, il me semble que ça les préparerait déjà tellement mieux pour la vie.
Il y a aussi, en revenant à l'expression « fake it until you make it » que tu as souligné tout à l'heure, il y a d'autres choses aussi, des choses simples comme de la physiologie, par exemple, les gens qui sont déprimés ou qui sont dans une dépression, souvent ça s'accompagne des pensées négatives et tout ça. Quand on réalise que si on marche le dos droit et puis qu'on a la tête haute, c'est pratiquement impossible de se sentir ou de se placer dans un état de dépression.
C'est vrai.
La plupart des gens qui sont déprimés vont avoir les épaules basses, la mine basse et puis les garder vers le sol, etc.
Oui.
Mais si on force une certaine physiologie par des actions, on peut aussi mettre les chances plus de notre côté à changer nos pensées dans ce sens-là.
Mm-hmm. Ben, en fait, ça en vient à ce que j'aurais aimé ajouter, moi, c'est que ça vient d'un décret. Un décret de l'esprit. On décide. On décide du sens. On décide qu'on veut quelque chose ou qu'on devient quelque chose. Donc, oui, on peut dire du « wishful thinking », mais si tu fais du « wishful thinking » pendant 10 ans, tu vas le devenir. Moi, c'est comme ça que je m'imagine toujours. Quand je fais quelque chose, je le fais de manière professionnelle, comme si, même si je joue de la guitare dans mon salon, je m'imagine que j'ai des centaines de personnes qui m'écoutent parce que je sais que ça va arriver un jour.
Oui.
Et puis, pour moi, il n'y aura pas de différence parce que je vais avoir déjà visualisé, je vais déjà être prêt.
Mm-hmm,
mm-hmm. Question de néophyte, c'est quoi un wishful thinking là?
Ben, tu sais, c'est wishful thinking, c'est quelqu'un qui va, on va dire ça aujourd'hui, quelqu'un qui veut quelque chose trop facilement, tu sais, il va se penser déjà rendu. C'est un peu ce que Jackie disait, sauf que la personne, elle ne l'applique pas dans sa vie. Non, elle pense qu'elle est un génie ou qu'elle est bonne dans quelque chose, mais en fait, elle est nulle. Le wishful thinking, c'est un peu se mentir à soi-même.
Ben, là, on en revient aussi avec l'importance de se connaître soi pour éviter justement ce genre de décalage. Hein.
Oui, et en même temps de s'inventer, parce qu'il n'y a rien, de mauvais, il n'y a rien de méchant à modeler, s'inspirer des gens, des personnes qui nous ont inspirés dans notre vie, qui nous fait vibrer.
Mm-hmm.
Moi, je trouve que c'est une très bonne idée.
Là que l'invention de soi prend tout son sens.
Oui.
Lorsqu'on décide de changer ses pensées, il y a un gros aspect de création et la visualisation. Ça fait partie, c'est la base. Donc, on visualise. Moi, je me sens comme un visionnaire. Je reçois des visions que je passe dans mon art. Donc, ça passe toujours par la vision. Je vois quelque chose. Quand je l'ai vu, c'est facile. Je sais où je m'en vais. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. C'est facile pour moi. Mais j'ai renoncé, moi, à vouloir sauver le monde, à vouloir changer le monde. Mais je me change d'une manière tellement radicale que c'est sûr que j'ai un impact sur le monde présentement. Moi, je le vois quand j'écris un livre, par exemple. Et c'est très intense présentement. Moi, j'écris, par exemple, le dernier que j'ai écrit, il s'appelait « Le grand silence ». C'est un état de paix très profond. Et puis, quand je parlais de certains sujets, je le faisais avec une intensité telle que dans le monde réel autour de moi, je voyais tout de suite l'impact. Mon livre n'était même pas publié, même pas encore tapé, mais l'idée était lancée. La pensée était là. Et quand une pensée est là, c'est pas pour rien que 550 ans avant Jésus-Christ, au même moment sur la planète, il y a eu des grands maîtres comme Bouddha, Lao Tzu, Zarathustra. La pensée était là, puis ces cinq-là étaient un. Ils sont venus changer le monde radicalement. Et eux, en se changeant eux-mêmes, ils sont le bon exemple. Et pour moi, c'est ça un exemple. C'est pas une grande vedette comme Céline Dion. Pour moi, c'est un maître comme Gandhi qui est capable de s'asseoir puis de dire « Ah ouais, j'arrête de manger. » Puis quand Gandhi arrêtait de manger, le monde arrêtait autour de lui.
Oui.
Il a changé le monde se changeant.
C'est toujours la question de savoir finalement qui fait quoi, qui pense quoi, qui agit comme ci ou comme ça. Parce que un poulet, par exemple, qui va piailler très, très fort, n'arrivera pas à se changer, n'arrivera pas à changer rien alentour de lui, alors que quelqu'un, justement, qui réfléchit à sa vie, qui pense à sa vie, qui travaille, parce qu'il faut bien travailler, payer, mais pas trop, pour justement se laisser du temps de réflexion, soit pour écrire, faire un art ou quoi que ce soit, qui va donner de l'intensité à sa vie. Alors, lui, oui, a la capacité de changer sa vie par ses pensées, mais la personne qui travaille trop, là, qui est pris dans le train-train quotidien, qui est comme un petit poulet, là, qui est partout, là, ne pourra pas faire grand-chose pour sa propre vie. Elle va être faite, comme on dit.
Et il sera rapidement oublié, alors que quelqu'un un peu plus humble, mais qui s'est changé radicalement, pourrait passer à l'histoire. On peut penser à certains grands maîtres là, qui personne ne les connaissait de leur vivant, et puis maintenant, on parle encore d'eux.
Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs.
Ça peut être tout aussi valable et intéressant, les personnes qui ne sont pas forcément des grands maîtres ou qui ne sont pas forcément connus et puis qui œuvrent dans l'inconnu et qui ont certainement un aspect, un impact extrêmement bénéfique. Et c'est peut-être ces personnes-là, plus d'autres personnes qui jouent un bout à bout, changent la donne, changent les polarités et et contribuent à, je ne sais pas si on peut dire changer des énergies, mais en tout cas à les transcender, à les transformer.
Je n'ai pas nécessairement une très haute opinion pour les gens normaux ou les gens de la loi générale parce qu'ils sont des matérialistes aujourd'hui ou ils croient en Dieu. Alors, pour eux, le cerveau, la pensée est une sécrétion du cerveau. C'est quelque chose de matériel. Oui. Ça ne sort pas du cerveau. C'est pour ça que pour eux, de toute façon, c'est Dieu qui crée le monde. C'est pas eux. Ils ne se sentent pas partie du monde. Ils sont une petite graine de rien. Mais moi, je me sens au centre. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact. Pour moi, il y a un impact plus grand. Ça prend un Christ pour des milliards de personnes. Tant mieux si ces milliards de personnes ont fait un changement dans leur pensée. Mais sur la Terre, jusqu'à maintenant, moi, ça ne m'impressionne pas beaucoup, le comportement des êtres humains. Alors, c'est pour ça que j'ai tendance plutôt à cibler des maîtres ou des gens qui ont démontré qu'on peut radicalement changer son essence.
Tout en sachant aussi qu'on peut relativiser les choses, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des grands maîtres qui ont un grand impact, mais quand tu regardes la photo de la Terre ou la taille de la Terre et que tu la replaces dans l'espace de la galaxie, je veux dire, c'est une petite pointe, c'est un micron, et toi, tu es un micron de micron parmi ce micron.
Non, moi, je suis l'univers au complet.
C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que tu peux avoir l'air d'être un micron, mais
effectivement,
voilà. Oui.
Effectivement, oui. Tu peux être aussi l'univers. Donc, il y a ces deux choses, le tout et le rien, et je trouve que c'est... c'est merveilleux.
Tu peux te faire Dieu si tu le veux, il n'en tient qu'à toi.
Et sur ce, nous finissons notre émission aujourd'hui sur une chanson de Kali qui s'appelle « C'est quand le bonheur ». Et on vous invite à venir écouter nos podcasts sur Radio H2O. Et visitez notre site internet sur propos-sur-le-bonheur.com.
Je suis pendu à vos lèvres, espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre peut-être demain. La petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sûr l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. Et puis ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui mieux que ses vieux amants sait qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.